Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux avec autour des micros Pierre, Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafont. Cette semaine, eh bien, il y a 9 nouveautés. Bridget Jones folle de lui. Oh les mains, Oh la Frida, The Brutalist, Le Dernier Souffle. Alors, Looney Tunes, Daffy and Porky sauvent le monde. Les Damnés, Captain America Brave New World et Striptease Intégrale. Voilà pour la programmation musicale. Ça ne sera que des titres que l'on entend dans la bande originale du film. Bridget Jones, folle de lui. Et ce n'est pas les titres qui manquent. Et on commence par un fort célèbre qu'on a déjà entendu sur Radio Alpa et sur Clap. C'est David Bowie, Modern Love. Eh bien, c'est David Bowie, Modern Love, un titre que l'on entend au tout début du film, Bridget Jones, folle de lui. Eh bien, justement, c'est le moment d'en parler, de ce film qui est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Au Colisée et au Méga CGR, il y a des VO. J'en ai pas repéré au... c'est au Colisée qu'il y a des VO et au Pathé Quinconce, et j'en ai pas repéré au Méga CGR. Michael Morris est le réalisateur de ce film. Il est acteur, réalisateur, scénariste. Il est britannique et il est né en 1974. Il a à son actif de nombreux épisodes, de nombreuses séries, House of Cards, US Marshal, Kingdom, Brothers and Sisters, etc. Et puis, il semble avoir réalisé en 2022 un film qui s'appelait Too Leslie, qui n'a pas été distribué en France. Pierre vous parle de Bridget Jones, Folle de lui.
Durée 2h04, le titre original c'est Mad About the Boy, c'est pas tout à fait la même chose, avec Renée Zellweger bien entendu, mais aussi Chiwetel Ejiofor et Leo Woodall. Le synopsis, Bridget Jones a 52 ans et deux enfants. Après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur, elle est à nouveau en quête de l'homme idéal. Mais ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Les mésaventures de Bridget n'ont rien perdu de leur piquant. La revue de presse, Le Figaro avec Constance Jamais. Rares sont les comédies romantiques qui se penchent sur l'après Happy End de leur héroïne, les coups du sort, les revers qu'elles subissent ou qui les laissent vieillir. C'est la petite révolution de Bridget Jones, Folle de lui, épilogue attachant des aventures de la plus emblématique célibataire du 7e art. Le journal du dimanche avec Barbara Théat, une suite qui fonctionne à la nostalgie, des dialogues toujours crus et mordants, la même bande de copines délurées, le légendaire Slip Gain et Hugh Grant qui fait encore son show. Le Parisien avec Renaud Baronian, plus enlevé et plus maîtrisé, ce nouveau volet nous présente au départ une Bridget de 52 ans qui semble avoir bien changé. La Croix avec Charlotte de Frébon. Si le scénario se teinte cette fois de nostalgie, les fans de l'éternel célibataire se réjouiront de ses aventures toujours aussi rocambolesques. Première avec Marie Janeria. Force est de constater que Bridget Jones, folle de lui, met tout le monde d'accord. Les fans de longue date retrouvent l'âme de leur héroïne tout en restant accessible aux nouvelles générations. Paris réussit aussi pour Bridget, qui démarre sa nouvelle idylle sous les flocons de neige, au coin d'une rue, un air de déjà-vu. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Ce que Mrs. Jones gagne en émotion, elle le perd, c'est dommage, en puissance comique. L'Obs avec Nicolas Chaleur. Le deuil de la londonienne a beau apporter un semblant d'âme et Hugh Grant, vieux beau, face à sa finitude, du piquant le temps des quatre scènes, tout est cousu de fil rose, rabâchage d'une formule poussive et ringarde de la rom-com pour l'actrice de Cosmopolitan, faisant mine d'épouser l'air du temps et l'âge de son héroïne. Et enfin la tribune du dimanche par Charlotte Langrand. Ce quatrième opus vise avant tout les fans nostalgiques qui se réjouiront de retrouver tous les petits travers de la célibataire londonienne la plus célèbre au monde. Les autres se désoleront d'une grande impression de déjà-vu dans un scénario plein de bons sentiments.
Bridget Jones, folle de lui, au Colisée, au Pâté Quinconce VO-VF et au Méga CGR, semble-t-il, uniquement en VF. Donc c'est le quatrième épisode des aventures de Bridget Jones, désormais quinquagénaire, veuve de Mark Darcy. Elle et ses deux enfants sont confrontés au deuil, au chagrin immense et au manque qui va avec, quoi, avec le deuil, bien sûr. Elle peut heureusement compter pour la soutenir sur ses amis, et notamment Daniel, toujours irrésistiblement cynique, Hugh Grant, qui a quatre scènes, mais qui sont marquantes. Alors, ses amis donc encouragent Bridget à reprendre son travail de productrice de télévision et surtout de se remettre sur le marché, comme on dit, sur le marché de la séduction, bien sûr, afin de retrouver un nouveau compagnon via les applications de rencontres. Et c'est justement ainsi qu'elle fait fortuitement la connaissance de Rockster, un séduisant jardinier, on va dire, beaucoup plus jeune qu'elle. Alors, sera-t-il le nouvel homme de sa vie? Ben, ça, c'est en allant voir le film que vous le saurez. Alors, c'est un film qui reste toujours aussi drôle dans ses dialogues, plein d'autodérision avec ses commentaires en voix off sur elle-même de Bridget. Alors certes, c'est prévisible de bout en bout, et personnellement, je regarde la dernière demi-heure, qui est pour moi en trop, elle est pleine de bons sentiments, elle est beaucoup trop cucu, mais je reconnais qu'elle est nécessaire pour faire une belle part à l'émotion qui amènera au happy end que l'on devine dès le premier quart d'heure quand on a l'habitude de ce genre de film. Donc le film est aussi une réflexion sur le vieillissement, sur l'évolution des mœurs, tout ceci est empreint d'une certaine mélancolie, mais ça reste avant tout à voir pour ces scènes cocasses, pleines d'humour, portées par des acteurs dont émerge donc dans quelques seconds rôles irrésistibles, on l'a dit, Hugh Grant, mais aussi Emma Thompson, et bien sûr l'abattage de Renée Zellweger. Donc à voir, surtout pour ceux qui sont les fidèles de la saga de la première heure. Pour les autres, c'est quand même compliqué de s'y retrouver quand on n'a pas vu les opus précédents, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont les opus précédents, et on ne sait pas si on n'a jamais vu les trois premiers, ce qu'ils viennent faire là, qui sont-ils et pourquoi sont-ils là.
J'en ai vu, mais pas tous. Hein.
Voilà.
Mais
à toi,
bon,
Pierre.
C'était déjà pas mal. Alors donc, quatrième volet des aventures amoureuses de Bridget Jones, je vais faire un petit rappel. Bridget Jones Diary en 2001, Bridget Jones The Edge of Reason en 2004 et Bridget Jones Baby en 2016. Tous ces films sont inspirés de romans d'Helen Fielding. On y retrouve encore aujourd'hui les mêmes principaux acteurs, donc Renée Zellweger, américaine, hein, c'est la seule, toujours aussi excellente, Colin Firth, qui fait de rares apparitions puisque son personnage est maintenant décédé, et Hugh Grant, qui a pris pas mal de rides hein, quand même sur les images. Ce film est vraiment très drôle dans son ensemble, grâce aux facéties de l'actrice principale, Renée Zellweger, toujours aussi enjouée. Et à ce propos, bah, tu l'as dit, mais moi ça m'a plu aussi, le système de la voix off, qui traduit ses pensées souvent en décalage total, avec ses propres paroles. Ah, ça, c'est excellent. Seul bémol, et on est d'accord avec toi, Michel, la dernière partie n'est plus drôle du tout. On sombre dans le mélo. Eh bien, à part ça, quand même, tout va bien.
Bon, eh bien, Bridget Jones, vous pouvez la voir au Pathé Quinconce, au Colisée et au Méga CGR. Par contre, Haut les mains, ça n'est qu'au Méga CGR que vous pouvez aller le voir. C'est un film de Julie Manoukian, réalisatrice et scénariste. Elle avait réalisé en 2019 Les Vétos, avec Clovis Cornillac et Noémie Schmitt. 2021, un téléfilm s'appelait Filles de paysans, et un deuxième téléfilm en 2023, Droit de regard. Ce film, donc, je répète, est proposé uniquement au Pathé, au Méga CGR, et il n'a pas eu le droit à beaucoup de critiques. Vous allez le voir, il n'a aucune.
En fait. Ben non, il n'y en a
donc,
pas.
Il y a juste
donc,
c'est jamais bon signe, ça.
Oui, je veux juste vous donner les infos. Donc, durée 1h27 avec Julie Manoukian, avec, pardon, Émilie Cahen, je me suis trompé
Emily
de
Kahn.
Encore.
Oui.
Avec Émilie Cahen, Vincent
Elbaz. Quand, Émilie Cahen.
Oui, comme,
comme la ville. Oui.
Ah bon, d'accord.
Oui.
Et Tracy Gotoas.
Oui, mais il y a surtout Vincent Elbaz, mais il n'est pas marqué dans ton papier.
Si, je l'ai cité.
Vincent Elbaz, d'accord. Oui.
Synopsis, les crimes contre la nature les scandalisent, les injustices faites aux femmes les révoltent, les Green Panthers des Robins des Bois d'aujourd'hui se lancent dans le cambriolage engagé contre les pollueurs et les harceleurs. Mais pour ouvrir le coffre de leurs rêves, il leur faudra s'associer à Bernard, un cambrioleur vieillissant pas très à jour sur l'écoféminisme. Ben voilà, il n'y a pas de revue de presse.
Pas de revue de presse, mais moi j'ai vu le film, je l'ai vu au Méga CGR. À signaler que le Méga CGR, les travaux sont pratiquement finis et que le cinéma est vraiment magnifique maintenant qu'il est quasiment fini. Franchement, allez-y, vous allez voir, c'est assez chouette la rénovation du cinéma. Alors, Haut les mains, c'est une comédie policière type téléfilm dans sa façon de filmer et son scénario. Ou un groupuscule, alors un groupuscule, ils sont trois, hein, c'est vraiment un groupuscule, d'écolos féministes qu'on appelle les Green Panthers, fait appel à Bernard. Bernard, c'est un montant-l'air, quinquagénaire et professionnel du forçage de coffre-fort. Et donc, on fait appel à lui pour récupérer des documents qui devraient compromettre l'animateur télé, soi-disant écolo, harceleur sexuel de son personnel féminin et promis être ministre. L'allusion à Nicolas Hulot est transparente. Alors, eh bien, est-ce que Bernard est-ce que Bernard, pris dans un chantage par un flic ripou, dénoncera ses commanditaires, les Green Panthers, ou sera-t-il convaincu par la justesse de leur cause? Voilà la problématique, comme on dit aujourd'hui, du film. Le message est limpide, les intentions sont louables, dénoncer le greenwashing de certaines entreprises, la masculinité toxique également, comme on dit aujourd'hui, mais ça n'est pas suffisant pour faire un bon film. Tout ici est poussif, comme moi d'ailleurs, caricatural. Alors ça, on peut admettre soit caricatural parce qu'il s'agit d'une comédie, mais surtout peu convaincant. La réalisation est totalement passe-partout. Les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur a proposé. Et ils sont un peu à la ramasse d'ailleurs. Ça se voudrait sans doute iconoclaste, loufoque. En fait, c'est mou et plat. Le spectateur se dit qu'il aurait très bien pu attendre un passage télé d'un film qui va totalement passer inaperçu, faute de personnalité et d'originalité. C'est une nouvelle comédie pas drôle à mettre au passif du cinéma français, et moi, je ne vous la recommande pas. Et d'ailleurs, j'étais tout seul pour la voir. Bon, certes, la séance était à 11h15 le matin, mais bon, franchement, le film, il va tenir une semaine, la semaine prochaine, il ne sera pas là. Voilà, alors maintenant, Hola Frida. Hola Frida, c'est un film d'animation qui est proposé par les cinéastes dans le cadre des des films qui vont être proposés pendant les vacances. Alors Pierre peut nous en dire un mot tout de suite, parce que comme ça on gagne
peut,
du temps.
On peut, oui.
Olaf Frida, je vais vous dire en quoi ça consiste, et puis après il s'exprimera. Olaf Frida, c'est un film de André Cady et Karine Vézina. Donc André Cady et Corinne Vézina, ben, ce sont des Français. C'est leur premier long métrage pour Karine Vézina. Et pour André Cady, il avait réalisé en 2023 Dounia et la princesse d'Alep. Voilà, donc 1h22, proposé au cinéaste. Et c'est l'histoire d'une petite fille différente. Son monde, c'est Coyoacán, au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l'intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face avec un imaginaire débordant. Cette petite fille s'appelle Frida Kahlo. Alors, à la revue de presse, Colin Conradson dans Le Parisien parle d'une histoire inspirante, empreinte de poésie. Le Monde, avec ses couleurs flamboyantes et ses nombreux clins d'œil à l'œuvre de Frida Kahlo, le film exalte la capacité de la jeune fille à aller puiser dans son imagination la force d'affronter les épreuves les plus difficiles. Curieuse, créative, drôle, sensible aux plus faibles, engagée pour obtenir les mêmes droits que les garçons, celle-ci porte en elle les germes de cette personnalité hors norme qui en fera un modèle pour les générations à suivre. Stéphane Dreyfus dans La Croix. Un poil didactique, le film déploie de façon un peu trop sage son propos, toutefois émaillé de séquences oniriques de toute beauté, mais sans doute un peu effrayantes pour les plus sensibles, évoquant le combat de la petite Frida contre la mort. Thierry Chaise en première, le film souffre d'un côté trop scolaire, notamment dans ses dialogues, qui bégaye trop avec ce que les images traduisent à merveille. Et on le regarde d'autant plus que, quand l'animation prend le pouvoir dans les moments les plus féeriques, cauchemardesque, il imprime durablement les rétines. Alors Pierre ?
Alors je vais vous donner tous les films, il y en a pas mal, hein, donc j'ai essayé d'aller vite. À partir de 3 ans, Les Extraordinaires Aventures de Morph. 6 ans, À nous le monde, Olaf Frida donc, et Renard et Lapine sauvent la forêt. 8 ans, Slocum et moi, La vie en gros, et c'est pas fini. Dès 3 ans encore, Génial, Une guitare à la mer. 6 ans, Olaf Frida, oui, toujours. 8 ans, Slocum et moi. Et enfin, La vie en gros. Alors évidemment, comme il y a beaucoup de films, je vous convie à aller sur le site des cinéastes pour avoir les horaires. les-au-milieu-cinéaste.fr. Voilà, donc vous aurez toutes les heures. Et ça dure jusqu'au 23 février.
Jusqu'à la fin des vacances scolaires, évidemment. Allez, on passe à une petite pause musicale. Un titre que l'on entend dans le film Bridget Jones Folle de lui. C'est Olivia Dean, le titre s'appelle Dive et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. It isn't working. I'm a tidal wave of question marks and you're just surfing. Leaning into me like it's a knot. It's so crazy lately. Do you just understand my feelings? Make me see I'm capable and fine. I'm feeling beautiful tonight. I'm ready to die. Maybe it's the loving in your eyes. Olivia Dean Dive, une des nombreuses chansons qui parsèment le film Bridget Jones Folle de lui. The Brutalist, c'est un film qui est proposé au Pathé Quinconce et au cinéaste, et c'est un film de Brady Corbett, acteur, réalisateur, scénariste américain. Ça n'est pas son premier film, mais c'est le premier qui est distribué en France. Auparavant, il avait réalisé en 2015 L'enfance d'un chef avec Robert Pattinson et Bérénice Bejo, et en 2018 Vox Lux avec Nathalie Portman et Jude Law, qui avait été envoyé directement en DVD. Il a aussi à son actif quelques épisodes de série. Pierre, parle-nous de The Brutalist.
Durée 3h34. Avec une petite pause quand même.
Un quart d'heure.
Oui. Avec Adrien Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. Le synopsis, fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme Erzsébet, que les fluctuations de frontières et de régimes de l'Europe en guerre ont gravement mis à mal. Livré à lui-même en terre étrangère, Laszlo pose ses valises en Pennsylvanie, où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur. Mais le pouvoir et la postérité ont un lourd coup. La revue de presse, écran large avec Antoine Déru, film fleuve d'une fluidité déconcertante et d'une incroyable densité, The Brutalist impose Brady Corbett en cinéaste passionnant et sa fresque en grand film sur l'Amérique, son mensonge et sa désillusion. L'humanité avec Michael Mélinard, une magnifique fresque monumentale. L'Obs avec Nicolas Scheller, une fresque américaine, oui, mais d'une européenne ambiguïté. Un monument, peut-être, mais intimiste. Entre classicisme et modernité, Brady Corbett ne choisit pas et accouche d'un grand, très grand film. Le Figaro avec Eric Neuhoff. Des films comme ça, on n'en voit pas beaucoup dans sa vie. Un film pareil, on n'en réalise qu'un dans sa vie. Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpèche. Un sacré morceau de cinéma, impitoyable, imprévisible et singulier. Le Parisien avec Renaud Baronian. Un choc de cinéma. Les Échos avec Adrien Gombeau. Un film époustouflant. Ouest France avec Pauline Boyer. Un monument en béton armé. La Croix. Une œuvre saisissante qui révèle les sombres dessous du rêve américain. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Une fresque magnifiquement mise en scène et portée par des comédiens habités. Et enfin, Télérama avec Louis Guichard.
Ça, c'est le contre.
Oui, c'est le seul. L'aspiration au monumental, inscrite dans le récit et l'esthétique, dans la durée extrême et les thèmes, tourne inévitablement à la démonstration de force permanente, une idée du cinéma que l'on n'est pas obligé d'aimer.
The Brutalist, c'est en VO uniquement au cinéaste avec deux séances par jour, et VF et VO au Pathé Quinconce. Je redoutais les 3h35 annoncées et je me suis décidé vraiment au dernier moment pour aller voir le film, mais je dois convenir que j'ai tenu sans problème. Et d'ailleurs, l'idée d'un entracte fait fort bienvenue pour tenir la distance, puisqu'au bout d'une heure 40, il y a un entracte qui est prévu, qui est annoncé, qui fera 15 minutes, il y a le décompte qui est à l'écran. Et je reconnais m'être beaucoup moins ennuyé qu'à un film comme Les Damnés, dont on va parler dans un petit moment, qui dure une heure et demie. Parce que The Brutalist, un film qui est fluide, pas du tout contemplatif, et riche. Alors, de là à dire, comme beaucoup de critiques, le fond qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre insurpassable, bon, je n'irai pas jusque-là. C'est un très bon film, je suis d'accord, mais bon, voilà, il y a des films sur l'Amérique qui sont... aussi marquant, les films de Sergio Leone, était une fois l'Amérique, des Spielberg, des Scorsese, etc. Bon, voilà. Donc, les grands thèmes du film, c'est la persistance des traumatismes des survivants victimes de la Shoah après leur libération des camps. Et secondairement, aussi comme thème, il y a l'antisémitisme d'une partie de la société américaine à leur égard. Là, ça me paraît un petit peu plus contestable, même si cet antisémitisme est réel chez une partie des WASP de l'époque. Beaucoup de juifs ont quand même trouvé refuge aux États-Unis et n'y ont pas été persécutés, il ne faut pas non plus exagérer. Puis le film est aussi une histoire d'amour, absolument. Voilà. Donc ces thèmes sont traités à travers l'histoire de Laszlo Toth, architecte déjà reconnu avant-guerre, rescapé de Buchenwald, comme on dit en français, qui débarque aux États-Unis où il est recueilli par un cousin qu'il héberge et l'emploie dans son commerce d'ameublement. Et puis, ben, ce cousin finit par le laisser tomber, on verra pourquoi d'ailleurs dans le film, au moment où Laszlo fait la connaissance d'un riche homme d'affaires qui devient en quelque sorte son mécène en lui confiant la réalisation d'un gigantesque centre socio-culturel. Ça, c'est la fin de la première partie. La deuxième partie commence avec les retrouvailles de Laszlo et de sa femme et de sa nièce, qui sont elles aussi rescapées des camps, mais qui sont restées en Europe pour des questions administratives, on va dire ça pour faire simple. C'est aussi dans cette deuxième partie que s'accumulent les difficultés de tous ordres pour la réalisation de l'imposant bâtiment commandé par ce mécène, Van Buren. Plus proche dans son style d'un Paul Thomas Anderson que d'un Spielberg, par exemple, avec notamment quelques très fortes ellipses et scènes plus symboliques que vraiment logiques dans le récit. Un film fort sur les thèmes évoqués, avec un Adrien Brody à l'interprétation fiévreuse et saisissante. C'est une fresque, je reprends ce terme parce que beaucoup de critiques l'ont dit, une fresque dramatique et intimiste que je recommande sans difficulté. Je suis un peu étonné de dire ça pour un film qui fait 3h38, mais je recommande sans difficulté. Alors attention, précisons que c'est une œuvre d'imagination, c'est pas du tout un biopic, ce Laszlo Todd n'a pas existé. Et donc c'est un film que je recommande chaudement, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais que je recommande vraiment. Et puis, ne vous laissez pas rebuter par l'idée que le film fait 3h35. Ça passe sans trop de difficultés. The Brutalist. Le dernier souffle, on reste au cinéaste pour ce film proposé par le cinéma du centre-ville, avec en général une séance par jour, quelquefois deux, mais une séance par jour. C'est un film de Costa Gavras. Alors, Costa Gavras, c'est un réalisateur, scénariste, producteur qui est quand même très connu. Il est né il y a très longtemps et il a 92 ans, je crois. Donc, il a commencé ses études à l'IDEC. À l'époque, ça s'appelait l'IDEC, aujourd'hui ça s'appelle la FEMIS. Il a été assistant réalisateur. Et en 65, son premier long métrage, c'est un polar qu'on voit de temps en temps à la télévision qui s'appelle Comportement tueur, avec un casting de folie. Il y avait Montand, Signoret, etc. 67, toujours dans le thriller, Un homme de trop avec Charles Vanel et Bruno Kreiner. Et puis le film qui le révèle au grand public, vraiment, et qui fait de lui un cinéaste qui va compter, c'est en 69, Z, avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas. Et puis il devient une sorte de spécialiste de ces films qu'on va appeler politiques, pour faire simple. 70, L'aveu, avec Montand et Signoret. 73, État de siège, avec Montand et Renato Salvatori. 75, Section spéciale. 79, Clair de femme, là c'est pas un film politique, hein, c'est une adaptation je crois d'un roman de Romain Gary avec Romy Schneider et Yves Montand. 82, Missing, qu'on a vu il y a pas si longtemps à la télévision sur Arte, avec Jack Lemmon, Sissi Spacek, qui lui avait valu la Palme d'Or. 83, Anna K, avec Gilles Clayburg. 86, Conseil de famille, avec Johnny Hallyday et Fanny Ardant, c'était une petite comédie assez sympa. 88, La main droite du diable, avec Debra Winger et Tom Berenger. 90, Music Box, avec Jessica Lange et Armin Müller-Stahl. Là aussi, je crois bien que ça a obtenu la Palme d'Or. Hein. Je ne suis pas certain, mais il me semble bien. Non, peut-être pas la Palme d'Or. 93, La Petite Apocalypse, avec Arditi et Dussolier. 98, Mad City, avec Travolta et Dustin Hoffman. 2002, Amen, avec Mathieu Kassovitz. 2005, Le Couperet, avec José Garcia et Karen Viard. 2009, Eden à l'Ouest. 2012, Le Capital avec Gad Elmaleh. Et 2019, Adults in the Room, in a Room. Pierre, parle-nous un petit peu de ce dernier souffle.
Durée 1h39, avec Denis Podalydès, Kat Merad et Marilyn Canto. Le synopsis, dans un dialogue amical et passionné, le docteur Augustin Massé et l'écrivain Fabrice Toussaint se confrontent pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre fatalité. Emportés par un tourbillon de visites et de rencontres, tous deux démarrent un voyage sensible entre rire et larmes, une aventure humaine au cœur de notre vie à tous. La revue de presse, La Tribune du Dimanche avec Charlotte Langrand, on rit au milieu des larmes, on s'émeut en redonnant de la dignité aux êtres chers qui vont nous quitter et on s'interroge sans pathos sur cette question essentielle de la fin de vie.
Oui, on rit, pas trop quand même, hein.
Le Parisien avec Renaud Baronian, épatant et donnant à réfléchir, le film doit notamment beaucoup à ses comédiens, tous remarquables, aussi bien ceux qui interprètent les patients, comme Françoise Debrun, Agathe Bonitzer ou Charlotte Rampling, qu'à ceux qui tiennent les deux rôles principaux, Kat Merad et Denis Podalydès. Les Échos avec Olivier De Bruyne, profond, émouvant et parfois très drôle. Ouest France avec Philippe Lemoine, avec Le Dernier Souffle, le réalisateur Costa Gavras livre un film profond et humain sur la fin de vie, avec deux formidables interprètes, Cadmeyrade et Denis Podalydès. La Croix, avec Cécile Rouden, en adaptant au cinéma le livre d'entretien entre Régis Debray et Claude Grange, le cinéaste se livre à une réflexion intime et profondément humaine sur la fin de vie et appelle à se confronter au sujet de la mort. Le Journal du Dimanche, avec Baptiste Thion, un sujet difficile et bien qu'il nous concerne tous, peu vendeur. Il n'en est pas moins profond et émouvant, parfois lumineux et poétique même. Télé 7 jours, avec Isabelle Magnier, un film parfois trop didactique, mais courageux, humaniste et jamais lugubre, même si le sujet est rude. Et enfin, Première, avec Thomas Borez, Cadmeyrade, en médecin spécialiste de la fin de vie, avance dans les couloirs d'une mort annoncée avec la sérénité du sage. Face à lui, un écrivain inquiet, Denis Podalydès, est suspendu à cet oracle qui enfile les perles que Gavras tente péniblement d'enfiler. Mais la mise en scène peu inspirée supprime tout désir d'élévation et finalement le dernier souffle bien triste requiem.
Oui, j'en fais un nom. Oui, donc le dernier souffle, c'est un film qui est proposé par les cinéastes avec une séance, voire deux par jour. C'est le genre de film qu'il vaut mieux aller voir quand on est en bonne santé et qu'on a un moral d'acier, un moral à toute épreuve, parce qu'il est exclusivement question du vieillissement de la population française et de ses conséquences, notamment celle du problème de la fin de vie des malades en phase terminale dans les services de soins palliatifs. Et il est question de la mort, tout simplement. On a connu quand même des sujets beaucoup plus joyeux. Sous la forme, c'est une série de dialogues entre un écrivain philosophe intéressé depuis longtemps par ces thèmes et un chef de service d'une unité de soins de fin de vie. Le film évoque des cas de conscience absolument inhumains, des situations tragiques, les façons de les aborder par le personnel hospitalier, les relations que ce personnel doit entretenir avec les patients et leur entourage, aux attentes souvent contradictoires, c'est-à-dire prolonger à tout prix, soulager le plus possible, répondre aux demandes, essayer d'être le plus humain possible. Tout un questionnement traité ici avec sensibilité et humanité à travers toute une série en quelque sorte de cas pratiques toujours plus bouleversants les uns que les autres. Alors certes, sur le strict plan cinématographique, c'est très plan-plan, hein, c'est vraiment conçu essentiellement en une série de face-à-face comme autant de cas pratiques, mais les acteurs sont justes, tout effet mélodramatique est évité. Alors, on est forcément touché, hein, bien sûr. Évidemment, ce n'est pas un film de divertissement, c'est une œuvre de réflexion qui fait le point sur des situations que l'on risque tous de connaître un jour ou l'autre, pour soi ou un proche, que l'on espère aborder avec dignité. C'est un film profond où chacun pourra examiner son approche de la situation et qui fera certainement débat pour ceux qui le verront. Voilà. Donc, dans la salle, il y avait quand même beaucoup de gens et c'était pas une moyenne d'âge très jeune, c'est évident. C'est un film qui est. Moi, j'ai trouvé dur. Hein, moi, quand il parle de moments drôles, drôle, il y a peut-être un ou deux moments où on sourit. C'est un film qui est vraiment, vraiment dur. Moi, j'ai trouvé dur. Hein, enfin, bon, c'est comme ça. C'est mon approche personnelle de la chose. Hein, c'est ça. Le dernier souffle, dans tous les cas, moi, je le recommande, mais je répète, hein, vaut mieux être en bonne santé, quoi. Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde. Là, c'est un virage à 180 degrés qu'on effectue parce que là, c'est un film d'animation qui est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce, je crois. J'en suis pas absolument certain. Si, je crois bien. C'est un film d'animation d'1h31 de Peter Braungard. Ce réalisateur, ben, je n'ai pas trouvé d'autres films à son actif, donc ça doit être son premier long métrage. Réalisateur, producteur américain. Le film 1h31, c'est l'un des plus grands duos comiques de l'histoire. Daffy Duck et Porky Pig, qui fait son grand retour au cinéma dans une nouvelle comédie déjantée, enchaînant les gags et les catastrophes dont seuls les Toons sont capables. Daffy Duck et Porky Pig est une nouvelle venue prénommée Petunia Pig vont tenter de sauver le monde d'une terrible menace. Julien Macheret dans Le Monde parle de film enjoué et drôle. Catherine Ball dans Le Parisien, bourré de gags visuels et de jeux de mots rigolos sur les cochons qu'on charcute et les canards qui se font coincer. Le film amuse et son intrigue ne cesse de rebondir. Aurélien Allain dans Cinématiseur, une véritable bravoure de comédie qui ne s'excuse jamais de sa folie douce. François Léger dans Première, bourré de gags tordants, où le quatrième mur est mis en pièces, ce film d'animation en 2D, incroyablement sophistiqué, transpire l'amour immodéré pour la franchise, et si le film n'évite pas tout à fait l'épuisement psychologique, il prouve joyeusement l'intemporalité de ses personnages. Nicolas Schaller Lopes, avec sa quinzaine de scénaristes, le film manque peut-être de personnalité, pas de savoir-faire ni de folie. Cela part dans tous les sens, sans message ou arrière-pensée, dans une esthétique et une ambiance très années 1950. Stéphane Répus, La Croix, gavé de clins d'œil, de gags au 12e degré et de répliques ironiques, parfois savoureuses, les spectateurs seront un peu essorés de ce spectacle mené à 100 à l'heure, qui, comme un chewing-gum mâché trop longtemps, finit par devenir écœurant. Bon, alors, je ne suis pas allé le voir, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais tout à fait fan de Daffy Duck et de Porky Pig. Alors là, 1h30, bon, ben, c'est pour les enfants, c'est les vacances scolaires, donc 1h31 pour ce film. Allez, petite pause musicale, on revient à la BO de Bridget Jones Fall de lui, et on entend dedans Al Green, What a Wonderful Thing Love Is, et c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. What a wonderful thing love is, Al Green. Al Green, un spécialiste des slow. Les damnés, c'est un film qui est proposé par les cinéastes. Ce film a droit à une séance par jour. Son réalisateur s'appelle Roberto Minervini. Roberto Minervini, réalisateur, scénariste, producteur italien, qui a à son actif un certain nombre de documentaires. En 2013, Le Cœur battant. En 2015, The Overside. 2018, What You Gonna Do When the World's on Fire, et puis d'autres qui étaient inédits en France. Pierre, tu nous parles des damnés.
Durée 1h29 avec René Solomon, Jeremiah Knop et Kühler Ballinger. Le synopsis. Hiver 1862. Pendant la guerre de sécession, l'armée des États-Unis envoie à l'ouest une compagnie de volontaires pour effectuer une patrouille dans des régions inexplorées. Alors que leur mission change de cap, ils questionnent le sens de leur engagement. La revue de presse, L'Humanité avec Pierre Barbancet, du beau et grand cinéma. Les Cahiers du cinéma avec Marco Suzal. Malgré de très beaux plans de paysages ou de chevaux, les damnés touchent donc surtout quand ils se resserrent sur les personnages, leurs visages, leurs mains, leur silence, leurs gestes ou leurs discussions. L'Obs avec Xavier Le Herpeur. Il en résulte un film esthétiquement magistral, à la fois organique et sensoriel, trivial et sacré, au diapason de cette élégie prémonitoire d'une nation de damnés condamnés pour l'éternité à s'entre-dévorer. La Tribune du dimanche avec Aurélien Cabrol. Minervini concentre ses propos sur le quotidien de ces hommes perdus au milieu de nulle part. Il déploie une magnifique attention cinématographique au visage, aux gestes et aux regards. Le Parisien avec Renaud Baronian. De par son côté sec et âpre, Les damnés est à conseiller surtout aux cinéphiles. Ça n'en demeure pas moins un grand film. Les Inrecuptibles avec Ludovic Béot. Un film de guerre tout en soustraction qui décrit avec une sensorialité saisissante les temps morts d'un conflit armé. Positif avec Jean-Jacques Manzanera. Dans cette première fiction, le réalisateur réussit à insuffler dans le récit de guerre une rare beauté élégiaque qui hante longtemps après la projection. Libération avec Sandra Onana. Décalé de toute lecture grandiose ou conquérante de l'histoire de l'Amérique, les damnés restent sur le bord et regardent les uniformes se perdre dans le paysage jusqu'à ensevelissement, le bleu recouvert par le blanc. Et enfin, Le Monde. Faute d'une vraie confiance en la fiction, la mise en scène ne livre qu'une suite d'instantanés égarés entre ciel et terre où les personnages en uniforme impeccable semble défiler pour un bal costumé et le film de se déliter peu à peu jusqu'à sa destination dans le territoire des morts.
Les damnés, un film proposé par les cinéastes avec une séance par jour, le genre de film qui vous fait regretter d'être allé au cinéma et d'avoir gaspillé 1h30 de votre vie tant on s'y est ennuyé vu qu'il ne s'y passe pas grand chose et dont on se demande si les critiques ont vu le même film tant ils sont élogieux par rapport à mon point de vue. On y suit une patrouille de volontaires de l'armée nordiste durant la guerre de sécession. Cette patrouille est venue explorer le territoire du nord-ouest, loin du front. Alors pourquoi cette expédition ? On n'en sait rien. Toujours est-il que les soldats s'installent dans un campement et essaient de tuer le temps, alors en jouant aux cartes, en entretenant leurs armes et en discutant de tout et de rien. Et puis survient une embuscade où ils se font tirer dessus par un ennemi invisible. Plusieurs d'entre eux restent sur le carreau. Les autres vont essayer de s'échapper et retrouver leur base à travers la forêt enneigée, toujours sous la menace potentielle de cet ennemi invisible. Occasion pour eux de multiplier les réflexions sur les raisons de leur engagement et sur le fait d'être un homme. Voilà. Bon, c'est filmé à hauteur d'homme, souvent en gros plan. Oui, alors on filme les mains, oui, on filme le visage. Bon, avec une caméra en mouvement qui les suit façon reportage. On ne voit pas trop l'intérêt de ce récit languissant et contemplatif, montrant des soldats entre eux, leur quotidien, leurs états d'âme. Alors certes, les paysages sont magnifiques, mais bon, autant aller voir un documentaire sur le Montana. Ça ne suffit quand même pas. J'ai quand même l'impression que beaucoup de critiques se sont laissés influencer par le dossier de presse, à moins que pour eux, le nec plus ultra d'un film, ce soit le vide. Voilà, vous avez compris que j'ai bien aligné les damnés. Captain America Brave New World, là on est totalement à l'opposé dans le cinéma américain. C'est un film de l'univers Marvel proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Je pense qu'il y a de la VO de temps en temps dans ces cinémas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la 4DX au Pathé Quinconce, de la 3D Ice au Méga CGR, et que le film dure 1h58. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, joué par Harrison Ford, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Car on y vient dans 20 minutes. Anthony Mackie est épatant dans cette version du super-héros qui doute de ses capacités à sauver le monde. Olivier Delcroix, Le Figaro, le spectateur n'a jamais vraiment le temps de s'ennuyer dans ce blockbuster d'espionnage rythmé, mêlant allègrement politique-fiction, action décomplexée, super-héros renouvelés et effets spéciaux ébouriffants. Ça se gâte. Augustin Pietron Locatelli dans Télérama. Le résultat terne mais bien mené étonne par ses légères saillies apocalyptico-actuelles. Jacques Mandelbaum dans Le Monde. Signalons néanmoins quelques intérêts disséminés ici ou là, principalement du côté des acteurs. La bonne prestation d'Anthony Mackie dans le rôle de Captain America, comédien convaincant et sympathique. Sylvestre Picard en première. Pas très costaud narrativement, le nouveau film Captain America fait l'essentiel avec de belles scènes de fight. C'est déjà ça. Adrien Gombeau, Les Échos, dans sa nouvelle aventure, le soldat super nationaliste parvient à sauver le monde, mais pas à réinventer la vieille formule des productions Marvel. 1h58 pour le film proposé au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce, que je n'ai pas vu parce qu'il y a quand même un petit moment que je ne vais plus voir les films Marvel. Ça me suffit de les voir à la télé en les saucissonnant 3-4 fois et en me disant « mais que c'est bête, que c'est bête ». Voilà. Captain America, Brave New World, là aussi c'est un film pour les jeunes publics, ados. Striptease intégral, on repart au cinéaste pour un film qui est un film documentaire. Une séance par jour pour ce film qui interdit moins de 12 ans, réalisé par Jean Libon, Clémentine Bisio et Régine Dubois. C'est un documentaire plus que jamais fidèle à l'esprit de la série culte qui a marqué les esprits et déclenché des vocations de cinéaste depuis près de 30 ans. Striptease intégral nous offre cette fois ce grand écran. 5 peintures sensibles, touchantes, parfois absurdes, souvent drôles, tantôt sombres ou lumineuses, mais toujours aussi vraies que nature, des vanités de la société humaine dans leur plus merveilleuse banalité. Vincent Austrier dans L'Humanité, la légendaire émission de documentaire belge caractérisée par son regard incisif et son phare sur le réel, reprend du service sur le grand écran avec une fournée assez décoiffante où l'adjectif intégral prend tout son sel. Olivier Delcroix dans Le Figaro, on ressort aussi hilar que chamboulé par cette mosaïque de récits. La force de Striptease intégral, c'est que ces 5 documentaires perturbants, aussi drôles qu'inquiétants, dressent le portrait d'une société humaine bien détraquée, où flotte l'entêtant parfum d'une folie douce sacrément cruelle. Catherine Ball dans Le Parisien, décidément un Striptease est un format unique et incroyablement gonflé. Charlotte Garçon, Cahiers du cinéma, ce film à sketch revient au principe de l'émission belge à succès des années 90-2010. Des situations sans commentaires ni entretien, avec une certaine modestie. Quant au charognardisme dont elle a été accusée de manière récurrente, il est ici pensé, ruminé et même radicalisé. Corinne Renoux, Nativa dans La Croix, un regard contrasté entre tendresse, humour et crudité. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, un échantillon d'humanité dans ce que celle-ci peut avoir de pathétique ou de touchant, à l'intérêt variable selon les segments qui agacent, amusent, interrogent ou surprennent. Pierre est allé voir Striptease intégrale et...
Ouais, je ne suis pas d'accord vraiment avec les critiques, mais c'est vrai qu'il y a des fans de l'émission. Bon,
J'en faisais partie, moi.
Je vais faire un petit rappel. Striptease nous vient de Belgique. Donc, cette série télé a été créée en 1985 sur RTBF. Elle est arrivée en France en 1987 sur Canal+. Sur France 3 en 1992 et enfin sur RMC Story en 2019. Alors pour moi, ce film m'a emmené à sa découverte, car je n'ai pas regardé les émissions de télé. Eh bien, ce documentaire m'a tout de suite rassuré, je n'avais pas raté grand-chose. En effet, j'ai trouvé cette série de courts-métrages d'un profond ennui. Le thème commun est annoncé comme vanité, ainsi voit-on d'entrée de jeunes françaises qui se la pètent à Dubaï. Puis les courts-métrages s'enchaînent jusqu'au macabre et scabreux « L'autopsie d'un cadavre », « Âme sensible s'abstenir ». C'est sans doute ces séquences qui a fait que le film est interdit au moins de 12 ans, car malgré le titre du film, rien de olé olé dans l'ensemble. Bah, moi, je n'accroche pas du tout à ce genre.
Moi, j'aimais beaucoup la série à la télé, j'ai adoré ça.
Ah, oui.
Et là, je ne suis pas allé le voir parce que le problème, c'est qu'il n'y a qu'une séance par jour. Et les horaires ne me convenaient pas si je voulais aller voir les autres films qui me paraissaient plus intéressants, plus importants. Allez, avant de nous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, on va les donner sur la musique de Jamie Cullum, Turn on the Lights, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, un titre que l'on entend toujours dans le film
Bridget Jones.
Show me reindeer flying through the midnight sky. We got a dream that comes back every year. Fallen pine needles and stockings full of cheer. I want it all until it disappears, for it's gone, gone, gone. Another Christmas is around the corner, and I can feel it, darling, getting closer. It's coming down.
Alors sur Jamie Colum, on vous annonce les avant-premières et les films de l'affiche la semaine prochaine. Pour les avant-premières, si vous écoutez en direct, ça commence ce soir avec un film d'épouvante horreur, The Monkey. Alors c'est à 22h au Pathé, à 22h15 au Méga CGR. Voilà ce qu'on peut dire. Dimanche au Pathé Quinconce, à 19h15, il y a l'avant-première du film L'Attachement de Karine Tardieu avec Valéria Bruni-Tedeschi, qui sortira le 19. Il y a également mardi soir, avec ou sans enfants, Omega CGR. Je ne sais pas s'il y a équipe de films avec, pour ce film-là, j'en sais rien, mais donc mardi 18, avec ou sans enfants, Omega CGR. Les films à la fin de la semaine prochaine, eh bien, donc L'Attachement, avec ou sans enfants. Mercato, un film sur le milieu du football avec Jamel Debbouze. Dis-moi que tu m'aimes, avec Omar Sy, Elodie Bouchèze, Vanessa Paradis, ça me paraît intéressant. The Monkey, donc. Et puis les cinéastes proposeront September and July d'Ariane Labed, When the Light Breaks. Alors je pense que c'est un film islandais, le réalisateur s'appelle Runar Runarsson, ça semble bien irlandais. Le documentaire Brian Jones et les Rolling Stones que Pierre va s'empresser d'aller voir.
Je peux, parce que les horaires, j'ai peur encore.
C'est son créneau, et puis il y aura peut-être d'autres films, genre La Fabrique du Mensonge, etc., etc. Cette semaine, Pierre recommande quand même.
Oh, alors là, Bridget Jones, si vous avez vu les précédents, vous aimerez beaucoup.
Bon, et moi je recommande The Brutalist, mais oui, je le recommande. Ah. Et Le Dernier Souffle, mais avec les restrictions que j'ai faites pendant l'émission. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on se retrouve la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.